Et le journal est présenté par François Chagnaud. Bonjour François.
Bonjour à tous. Nous consacrerons une large partie de cette édition aux annonces du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, souhaite créer un parquet national consacré à la lutte contre la criminalité organisée et un véritable statut de repenti inspiré du modèle italien. TikTok, bouc émissaire des réseaux sociaux ou véritable menace, la plateforme chinoise aux 1,7 milliard d'utilisateurs est en voie d'interdiction aux États-Unis. L'Union européenne aussi serre la vis, on en parle avec notre invité, le sinologue Pierre Sell. Et puis le monde des artistes israéliens a rétréci depuis le 7 octobre. Certains ne peuvent plus se produire à l'étranger sous peine de se mettre en danger. La justice se dote donc d'une nouvelle arme, le parquet national consacré à la lutte contre la criminalité organisée. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, l'annonçait ce matin, cette création du PNACO dans la tribune du dimanche. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour.
Le garde des Sceaux veut donc muscler la justice française face au crime organisé.
Oui, donc avec ce parquet national plutôt bien accueilli ce matin par les magistrats, le garde des Sceaux ne donne pas de détails, mais il viendra renforcer l'arsenal judiciaire contre le haut du spectre, dit-il. À vrai dire, la justice ne part pas de rien en matière de lutte contre la criminalité organisée. Il existe déjà 8 juridictions interrégionales spécialisées à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort-de-France. Pas question de les dévitaliser, assure le ministre. Des moyens supplémentaires leur seront d'ailleurs dédiés. Éric Dupond-Moretti souhaite, dit-il, capitaliser sur ce qui existe déjà. Il fait allusion à la Junalco, la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité. Moyens, missions, coordination de l'ensemble, l'ancien procureur antiterroriste Jean-François Ricard, désormais conseiller d'Éric Dupond-Moretti, va mener des consultations avant la présentation des détails de la réforme au mois d'octobre. Annoncé également par le garde des Sceaux, les cours d'assises spéciales se verront également confiées non seulement les trafics de stupéfiants en bande organisée, mais aussi les règlements de compte. Il s'agit là de mettre à l'abri des menaces et des pressions les jurés citoyens. Enfin, et largement commenté ce matin, ce statut de repenti, inspiré donc du modèle italien, même si une législation existe déjà en la matière, législation beaucoup trop restrictive selon le garde des Sceaux. À l'avenir, un juge pourra octroyer ce statut spécial à un repenti s'il a collaboré avec la justice.
Alors, ce programme de protection des collaborateurs, de réduction de peine que vous évoquez, Nicolas Ballu, merci d'ailleurs. C'est un cadre inspiré du système italien, donc, où le statut de repenti existe depuis les années 80, Blandine Hugonnet.
Cela fait plus de 40 ans que le pentito, le repenti italien, est reconnu par la loi ici, appliqué spécifiquement aux mafieux à partir des années 90. Et depuis, les cas de mafiosi qui brisent à la fois l'omerta et les liens avec leur clan se sont multipliés. Alors selon la loi italienne, pour le criminel condamné ou incarcéré, qu'il soit complice ou auteur de crime, le statut de collaborateur de justice peut être accordé en échange d'informations. Si elle s'avère fiable, nouvelle, complète et déterminante pour les enquêtes ou les procès, le repenti bénéficie d'une réduction de sa peine et d'une protection de l'État, avec nouvelle identité, nouveau lieu de vie, ainsi qu'une aide économique et à la réinsertion. C'est le programme pensé par le célèbre juge antimafia Giovanni Falcone pour inciter les boss à parler. Aujourd'hui, environ un millier de repentis et 5000 membres de leur famille sont sous protection des autorités. Système efficace mais critiqué aussi en Italie par les familles des victimes de la mafia, choquées de savoir les meurtriers libérés et protégé par l'État italien pendant des années.
Alors si le ministre de la Justice français voudrait donc calquer ce statut de repenti sur le modèle italien, attention, il y a des différences fondamentales entre le crime organisé dans nos deux pays. C'est ce que rappelle le journaliste et grand spécialiste de ce sujet, Frédéric Ploquin.
La mafia italienne, c'est quelque chose d'hyper structuré. Vous avez des structures totalement pyramidales. Si vous avez quelqu'un qui, au sommet de la pyramide de la mafia italienne, vous parle, vous pouvez faire un procès avec 1200 personnes. Si vous avez un troisième lieutenant au sein d'un petit gang de trafiquants de stupéfiants à Marseille qui parle, vous n'avez pas à obtenir le même résultat. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en France, on a une juxtaposition comme ça de micro-pyramides, de micro-cellules qui chacune roule pour elle-même. C'est ça le trafic de stupéfiants. C'est pas quelque chose de super organisé avec un grand chef en haut. Et ça, ça va tout de suite montrer les limites de ce statut de repenti, au sujet duquel, par ailleurs, je voudrais dire que là, Éric Dupond-Moretti va à rebours de la formation des magistrats à l'école, et ce statut, pour l'instant, culturellement, il n'a pas sa place. Et à chaque fois que ça a été tenté, En fait, les magistrats ne sont jamais allés jusqu'au bout parce que c'était extrêmement compliqué pour eux de donner leur couverture et de promettre en gros des remises de peine à quelqu'un qui a été impliqué dans la criminalité. Il va falloir effectivement que, je pense, le garde des Sceaux torde le cou à un certain nombre de magistrats sortis d'école aujourd'hui qui n'auront pas ce réflexe facile. Et la France, par ailleurs, n'a jamais dû déployer suffisamment de moyens pour offrir une deuxième vie, une seconde identité, comme ça se fait aux États-Unis.
Il y a quelques semaines, nous vous parlions de Citoyens unis contre la criminalité organisée en France et en Italie. Je vous invite donc à relire et réécouter le grand reportage et le feuilleton d'Anne Fauquemberg sur le site de France Culture. En Italie, toujours, Giorgia Meloni sera tête de liste aux européennes. Sans surprise, la première ministre italienne doit déclarer sa candidature à Pescara, l'un des bastions de son parti Fratelli d'Italia. C'est une candidature symbolique car elle ne démissionnera pas de son poste en cas de victoire. Tendez l'oreille, voici un indice sur la spécialité de notre invité. Bonjour Pierre Sell.
Bonjour, alors, bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques au sein du département de sinologie à l'université de Vienne. Et je suppose que vous avez reconnu ce petit extrait sonore.
Tout à fait, oui, le jingle de TikTok, difficile de ne pas le reconnaître.
Ouais, il s'agit bien de TikTok, ce réseau social né en Chine en 2016. Il pourrait bien atteindre cette année les 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Les TikTokers alors, partagent sur ce réseau leurs courtes vidéos, des chorégraphies, des sketchs, mais on y trouve aussi du contenu politique, des tutoriels également. Et si on choisit de vous parler de TikTok aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, les États-Unis ont adopté un projet de loi bipartisan qui ouvre la voie à son interdiction. La maison mère de TikTok a désormais 9 mois pour vendre sa plateforme à un acteur non chinois. Alors Pierre Sell, dans une tribune publiée dans Le Monde avant-hier, vous qualifiez cet épisode de psychodrame américain. Alors pourquoi employer ce terme de psychodrame ?
Oui, c'est peut-être pour un petit peu apporter le débat sur ce que je qualifierais quand même une obsession américaine vis-à-vis de la Chine et vice-versa. Aujourd'hui, les États-Unis ont un seul objectif, en tout cas en termes de relations internationales, c'est de être en compétition avec la Chine, le rival déclaré. Il en va de même du côté chinois, qui sont obsédés dans leurs relations bilatérales avec les États-Unis et de pouvoir se défendre ou prendre le dessus sur l'adversaire. Dans ce contexte, il est assez intolérable aux yeux du décideur américain qu'une application avec 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis soit contrôlée par une entreprise, chinoise, qui impliquerait un certain nombre de risques sur les données d'un utilisateur, des risques d'espionnage, de manipulation de l'information à très grande échelle. Ces risques donc sont dénoncés à souhait par les hommes politiques américains. Malgré tout, les preuves sont, on va dire, assez maigres. Il n'y a aucun doute que si le gouvernement chinois demandait à la maison mère ByteDance de TikTok de transmettre des données américaines, celle-ci s'exécuterait. De la même manière que lorsque FBI demande à Google des informations sur des données d'utilisateurs, celui-ci aussi s'exécute. J'en reviens au point principal, pour les décideurs américains, c'est intolérable que ce soit une entreprise chinoise.
Mais ça ne veut pas dire que... Alors vous parlez de ce psychodrame, mais ça ne veut pas dire que l'inquiétude américaine est infondée pour autant. Il est avéré que TikTok a reconnu en 2020 avoir espionné notamment des journalistes. Ça, c'est quelque chose de relativement incontestable aujourd'hui.
Absolument, ça c'est le cas, ça a été prouvé par des documents internes, des échanges de mails de l'entreprise de TikTok aux États-Unis. Maintenant, il faut aussi admettre que, en tout cas d'un point de vue d'Européen, les États-Unis font la même chose. Il ne s'agit pas de faire une équivalence entre les deux régimes, parce que c'est d'ailleurs bien là le point entre guillemets problématique de la position européenne, c'est qu'on préfère, même si on ne l'assume pas, avoir nos données stockées à San Francisco plutôt qu'à Pékin. Et là-dessus, quand on a les États-Unis qui en même temps signent ce projet de loi visant à l'interdiction possible à terme de TikTok, le Sénat américain a renouvelé l'autorisation accordée à l'exécutif américain de collecter des données et d'espionner n'importe quel
de poids, de
citoyen.
Mesure.
Voilà, c'est un petit peu ce qui est reproché à la position européenne, qui est plus nuancée que ça. Je voudrais surtout pas non plus donner l'impression de faire une équivalence entre le régime chinois et le régime américain.
Et ça, c'est sur le fond, mais sur la forme, les approches diffèrent aussi entre les États-Unis et l'Union européenne en termes de régulation ou d'interdiction. Qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui ?
Absolument. Mais les États-Unis, comme on l'a un peu sous-entendu, aujourd'hui sont dans une approche de sécurité nationale. C'est-à-dire que tout ce qui va appartenir à un régime rival, qu'il soit russe ou en particulier chinois, on va chercher soit à l'interdire. Encore une fois, l'interdiction est un raccourci. Comme vous l'avez bien dit, l'objectif de la loi est de forcer la vente de TikTok par ByteDance. Donc celle-ci devrait, ByteDance devrait se séparer de son application phare. L'interdiction aurait lieu seulement si la vente n'a pas lieu. En Europe, on choisit plutôt une approche qui se veut, en fait, on ne regarde pas la nationalité d'une entreprise, mais ses actions. On a aujourd'hui deux principaux textes réglementaires en Europe, qui sont la réglementation sur les services numériques et sur le marché numérique. Sur le marché numérique, c'est plutôt pour s'assurer que les entreprises ne se rendent pas dans des situations de monopole où elles utiliseraient leur position dominante contre d'autres acteurs. Et le service numérique, ce qui nous intéresse ici, vise à s'assurer que les grandes plateformes, réseaux sociaux ou alors sites de vente en ligne respectent la transparence, ne vendent pas de produits illégaux, pas de contenus illégaux, que ce soit d'incitation à la haine, pédopornographique, vous m'avez compris.
Ouais. On a évoqué donc ces aspects plus géopolitiques, stratégiques, de soft power d'une certaine façon, mais on se trouve aussi face à une guerre commerciale. Le PDG de TikTok a estimé que le texte voté au Congrès a pour but de favoriser une poignée d'autres réseaux sociaux, des réseaux sociaux américains en l'occurrence. Donc est-ce qu'on se trouve aussi face à une guerre commerciale du point de vue de ces réseaux sociaux?
C'est probable. Alors là-dessus, on n'a pas forcément d'éléments. Il y a des rumeurs, ou du moins, entre guillemets, un petit récit qui est monté dans les médias. Est-ce que c'est TikTok qui propulse ce récit? Ça, on ne le sait pas. Mais effectivement, que certaines entreprises et des rivaux comme Meta, peut-être Twitter, ou peut-être dans une autre mesure Instagram, voudraient pousser TikTok vers la sortie, ou alors des fonds d'investissement seraient intéressés par racheter TikTok, parce que TikTok est une machine... fait beaucoup d'argent, hein, ça aiguise les appétits. Et donc par là, oui, il est évident que il y a aussi un aspect technologique. Ce qui sera d'ailleurs très intéressant, c'est que dans le cas d'une vente de TikTok, Pékin devra donner son accord à la vente de l'algorithme de recommandation, donc ce qui fait en fait une grande partie du business de l'efficacité de TikTok. Pékin devra donner son autorisation pour que ByteDance vende cet algorithme, ce qui est loin d'être acquis. C'est-à-dire que dans le cas d'une vente, on pourrait avoir en fait ByteDance, vendre TikTok et donc ses utilisateurs à travers le monde, mais pas l'algorithme de recommandation, ce qui fait jusqu'ici son succès.
Sa force de frappe. Merci beaucoup Pierre Selle, sinologue, chercheur en sciences politiques au sein du département de sinologie à l'université de Vienne. Les pourparlers en vue d'une trêve à Gaza se poursuivent ce dimanche. Le Hamas annonçait hier étudier une contre-proposition israélienne pour un cessez-le-feu. Stéphane Séjourné doit rencontrer aujourd'hui plusieurs responsables libanais afin de désamorcer les tensions dans la région. Dans le même temps, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en appelle aux États-Unis pour empêcher Israël d'entrer dans Rafah. Plus d'un million et demi de civils s'entassent dans cette ville du sud de l'enclave palestinienne. Les artistes israéliens assignés à résidence depuis le début de la guerre, ils sont nombreux à ne plus pouvoir se produire à l'étranger pour des raisons de sécurité et en particulier après la multiplication de manifestations pro-palestiniennes. Nos envoyés spéciaux Omar Waman et Eric Audra ont rencontré une plasticienne israélienne.
Ronit Keret nous accueille dans sa maison de Haïfa, dans le nord d'Israël. Cette plasticienne et peintre, figure de l'art contemporain israélien, devait exposer ses œuvres à Barcelone, une invitation lancée avant le 7 octobre.
Ce devait être la plus grande exposition de ma vie. J'ai travaillé un an et demi pour ça.
C'est la guerre dans la bande de Gaza suite au massacre commis par le Hamas qui a changé le cours des choses. Les manifestations hostiles à l'État hébreu se sont multipliées dans la ville espagnole, ce qui a poussé les organisateurs à annuler sa venue.
Le commissaire de l'exposition m'a dit que c'était trop dangereux pour moi et trop dangereux pour nous d'exposer votre travail, car vous êtes israélienne. Il m'a dit: nous allons devoir reporter votre exposition après la guerre.
After the war.
Une profonde injustice, c'est ce que ressent cette artiste militante de la paix opposée au gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Parmi tous mes amis et ma famille, personne ne soutient le gouvernement, personne ne soutient ce qu'il fait et sa politique. J'ai le sentiment d'avoir été prise en otage par ce gouvernement. C'est ce que nous ressentons.
Ronit Keret attend désormais avec impatience que la guerre contre le Hamas prenne fin en espérant qu'elle pourra de nouveau exposer ses œuvres à travers le monde.
Un reportage en Israël de nos envoyés spéciaux Omar Waman et Eric Audra. La météo, temps pluvieux cet après-midi, quelques éclaircies sur la Bretagne et le Cotentin et des orages sur les pays de la Loire. Il fait entre 12 et 15 degrés sur la moitié nord, entre 13 et 18 au sud.